Et je commence par quelques versets du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jésus est déjà ressuscité. Je commence donc par la fin. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine, Pierre et Jean ont vu quelque chose d'impossible. Ils ont vu que le tombeau était vide. Le soir, c'est dimanche, c'est le dimanche de la résurrection. Le soir, les disciples se retrouvent ensemble, enfermés, là où, pour la dernière fois, ils avaient vu tous ensemble le Seigneur, dans le cénacle. Bien de choses se sont passées tout de suite après ce moment d'intimité avec lui. Vous savez, non, qu'à partir du chapitre 13, où il y a le dernier dîner de Jésus avec les disciples, après, il y a le 13, le 14, le 15, le 16, le 17. Il y a plein de chapitres avec plein de discours de Jésus. Le 17, c'est une prière de Jésus au Père. Et après, le 18 et le 19, c'est le procès et la mort. Le 20, le chapitre 20, c'est la résurrection. Donc, bien du chapitre. Le drame de la passion s'est déroulé devant leurs yeux, des disciples. Ils se sont enfouis, ils se sont cachés. Pendant cette retraite, nous en lirons ensemble quelques parties de cette partie de ce chapitre de Jean. Mais personne d'autre que quelques femmes et Jean sont restés auprès de la croix. Et maintenant, ils sont ensemble, enfermés dans le cénacle, pris par la peur. C'est impossible ce que Marie-Madeleine nous raconte. Elle est folle, elle délire, écrit Luc. Les rencontres personnelles se déroulent au petit matin. Vous vous souvenez de cette rencontre magnifique de Madeleine qui rencontre le jardinier. C'est le cantique des cantiques, le jardinier. À l'aube de nouveaux jours, tout se passe à l'aube de nouveaux jours, d'une nouvelle création. La rencontre avec la toute première communauté se déroule au soir, lorsque l'obscurité approche. Les disciples au soir de Pâques sont dans la même situation que la nôtre, car nous n'avons pas vu le Seigneur ressuscité. Ils n'ont pas cru à ce que ceux que l'avaient vu ont raconté. Et le soir de ce jour, de ce dimanche, il est venu. Il arrive. Ce soir précisément devient ainsi, puisqu'il arrive, plein de lumière. Car le Seigneur l'avait promis, il l'avait dit. Pendant quelque temps, vous ne me verrez pas, mais je viendrai auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai mon esprit et vous me reconnaîtrez et vous vivrez de la vie qui est la mienne. Et ce soir-là, il fait ce qu'il avait dit. Alors, on se met à la retraite à Saint-Pierre de Chartreuse. On est là. Aujourd'hui, pour nous, il fait la même chose. La page de Jean nous raconte ce qu'il y a d'essentiel et fondamental dans notre expérience de foi. À une communauté réunie, le Seigneur se montre avec sa carte d'identité. C'est laquelle? C'est sa passion. Sa mort et sa résurrection. Et il le fait en montrant les signes de son corps qui témoignent de ce qu'il a vécu. Par cela, les disciples, donc par ces signes, par cette rencontre charnelle avec le Christ qui montre le côté percé et les mains clouées, par cela, les disciples sont comblés de joie, de paix, comme s'ils lâchaient prise et s'abandonnaient finalement à l'évidence de celui qui est face à eux. Ils s'abandonnent à son amour. La fin de l'Évangile nous rend compte de ce qu'il y a au début de toute expérience chrétienne. Cette joie qui nous comble par la rencontre avec le Seigneur. Car de cela il s'agit finalement, de rencontrer ce qui se passe pour chaque disciple lorsqu'il s'abandonne, reconnaît l'amour de Dieu pour chacun. Jean ne veut pas raconter quelque chose d'extraordinaire. Autrement, cette page ne serait pas pour nous. Hein. Et par contre, elle est pour nous. Jean ne veut pas raconter quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé une seule fois dans l'histoire. La narration veut parler à tous ceux qui font l'expérience de la rencontre avec le Seigneur, par la parole et par l'Eucharistie. Jean est intéressé aux aspects de la résurrection qui nous concernent, la paix, la joie, le don de l'Esprit, la mission pour les autres, le pardon. C'est cela que nous annonce l'évangéliste. Ce n'est pas l'apparition qui compte finalement, mais le don du ressuscité, les dons de sa présence à nous et parmi nous. L'expérience des disciples est donc la nôtre. Si on regarde un instant la mosaïque, vous verrez dans la mosaïque, c'est pas ça la mosaïque, c'est beau, mais c'est pas la mosaïque. Si on regarde la mosaïque, vous voyez qu'en fait, l'expérience de ressuscité concerne toute l'humanité. Donc, il n'y a pas que les apôtres ou les évangélistes, c'est toute l'humanité. On peut la laisser, hein? Ok. Alors, je relis encore une fois ces deux versets de l'évangile de Jean. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Les portes sont verrouillées. La communauté est enfermée. L'obscurité du soir ne nous permet de reconnaître les autres. La peur nous isole. La peur nous cache à la nature et aux relations. L'obscurité du soir est le symbole de la mort qui demeure au-dedans de nous. Là, précisément là, Jésus vient. Le soir de ce jour qui ne se termine jamais, le jour de la résurrection, est notre soir. C'est aujourd'hui. Et comme la résurrection est à jamais et pour toujours, nous sommes toujours en ce jour-là. Et donc, l'obscurité est là, à nous, tant que nous gardons nos yeux fermés. Le soir fait partie de ce même jour de la nouvelle création qui est la résurrection. Comme le dit Zacharie au chapitre 14. Magnifique. Je vous lis ce verset de Zacharie. En ce jour-là, il n'y aura plus ni lumière, ni froidure, ni gel. Ce sera un jour unique. Le Seigneur le connaît. Il n'y aura plus de jour et de nuit. Mais à l'heure du soir, brillera la lumière à l'heure du soir. Et c'est un jour qui ne connaît pas le coucher du soleil. Chaque fois que nous lisons l'Évangile et écoutons la parole et nous célébrons l'Eucharistie, nous prenons place en ce jour. Donc, aujourd'hui, maintenant. Et à ce moment-là, il arrive et nous parle à nouveau. En disant aujourd'hui encore les mêmes choses. Nous sommes parfois comme les disciples. enfermé dans, dans un tombeau. Chacun a son tombeau. Hein. Le tombeau de la peur. Et ce tombeau nous désagrège, nous sépare les uns des autres. Par la peur, tout en étant ensemble, ils n'étaient pas ensemble, ils étaient seuls, divisés. Les portes étaient barricadées. Souvent, notre âme est comme un tombeau aux portes barricadées. On ne laisse entrer personne. Ils ont tué Jésus, donc ils nous tueront, nous aussi. Cette peur de la mort, cette mort anticipée est leur tombeau. Comme nous faisons parfois l'expérience de nos fragilités, ils avaient fait l'expérience de la trahison, du reniement, et donc cette peur avait la saveur amère du sens de culpabilité. Peut-être cela arrive à nous aussi. Et là, Jésus vient. Précisément là. Nos peurs ne peuvent pas retenir le Seigneur de nous rejoindre précisément là où nous sommes. Notre peur n'est pas un obstacle pour lui. Et nos trahisons, nos reniements d'eux-mêmes. Il les avait choisis. Il nous a choisis. Ils l'ont régné. Peut-être nous aussi. Mais il vient les chercher. Les rejoindre là où ils sont. Il l'avait promis. Il vient dans nos enfermements, il vient au milieu de nous et il apporte encore aujourd'hui sa paix. C'est la première expérience de la résurrection. Là où je suis enfermé dans mes peurs, il est présent, il vient au milieu et il annonce la paix. Là, je le rencontre, dans l'enfermement de mes peurs. Là, il me rencontre, il me connaît, comme le dit le psaume 31, au verset 8. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu mon malheur, tu as reconnu ma détresse. On pourrait aussi traduire. Tu m'as connu par ma détresse, par le moyen de mes angoisses. Et donc, littéralement, on pourrait lire « Tu connais mon âme dans l'angoisse. » Là, Dieu nous rejoint, par là, Dieu nous connaît, nous montre son amour inconditionnel et nous sauve. À travers nos souffrances, il acquiert cette connaissance de ce que nous sommes, de nos besoins, de nos maux, qui lui permet de nous rencontrer et de nous guérir. La joie, dans ce cas, naît précisément des souffrances, dans la mesure où elles sont rachetées, pas nécessairement surmontées, mais connues de Dieu, et donc remplies de sens. Nos souffrances sont le lieu de sa résurrection à nous. Il est ressuscité en sortant du tombeau. Pour nous, c'est de même. Je le rencontre dans mes peurs, dans mes morts. Autrement, c'est inutile. Je ne suis pas ressuscité. C'est là qu'il me ressuscite avec lui. C'est dans mes morts qu'il ressuscite à moi. Et l'évangéliste veut nous dire comment se pose cette rencontre, se passe cette rencontre du ressuscité avec nous par nos zones obscures et profondes. Il vient et précisément là, il doit rentrer et là apporter sa lumière et sa paix. C'est comme si, bon, si on était parfait, si tout se passait bien, on n'aurait pas besoin de Dieu. Si tout se passe bien, Dieu ne peut rien faire avec nous. Comme il ne se passe pas bien, donc il peut ressusciter en nous. C'est là que je ressuscite. Autrement, ce n'est pas vrai que j'ai rencontré le ressuscité. Parce que le rencontrer signifie ressusciter. Jésus prend l'initiative, c'est lui qui vient nous chercher. Il vient en nous et parmi nous et nous dit une fois encore, la paix soit avec vous. Là, il y aurait de quoi méditer. Non, il faudrait se laisser interpeller, rencontrer par Jésus, lui laisser voir nos enfermements, nos fragilités, nos faiblesses, nos trahisons, nos péchés, et se laisser dire « La paix soit avec toi ». Si cette parole est vraie, elle est vraie aujourd'hui encore pour nous. La paix soit avec vous. Et tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Là, je saute en verset. Vous verrez, si vous avez la Bible, je saute en verset, mais c'est pour garder seulement un concept. Et donc, Jésus vient. Et que fait-il? Il montre ses mains et son côté. Les mains indiquent dans les évangiles le pouvoir. Parce qu'avec les mains, on fait et on défait tout. C'est le pouvoir dont on parlait ce matin pendant les Lourdes. Hein. Cette magnificence de Dieu qui gouverne le monde. Hein. Eh bien, les mains sont le signe de ce pouvoir. Eh bien, ses mains ont lavé leurs pieds. Ses mains ont été clouées à la croix, clouées au service de l'homme. Voilà la puissance de la main de Dieu, du Seigneur. Laver les pieds et être cloué au service de l'amour pour l'homme. Et c'est là que nous connaissons le Seigneur. Et dans ses mains, nous voyons toute la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, et surtout le dernier moment, le signe de son amour extrême dans ses mains clouées au service de l'amour. Et si vous regardez la mosaïque, vous verrez que dans une représentation de Jésus glorieux, il y a toujours les mains clouées et le côté percé. Ça fait partie de sa gloire. C'est sa gloire. On en reparlera. Eh bien, c'est la contemplation de ses mains et de ce côté qui nous fait comprendre qui est le Seigneur pour nous. C'est la chair du Seigneur dont nous sommes tous nés. C'est la blessure d'amour de Dieu qui nous engendre. Et c'est cette contemplation des mains et du côté d'où jaillissent la paix et la joie. Et c'est ce qui nous arrive dans la célébration eucharistique, où nous contemplons chaque jour la passion de Dieu pour nous. Donc aujourd'hui à la messe, on pourrait vivre ça. Hein. Se retrouver dans le cénacle, ensemble, on y est vraiment, c'est la messe. Non ? Contempler sa passion et accueillir ses mots, ses paroles. La paix soit avec vous. Comment se fait-il? Cela est possible parce que Jésus nous donne l'esprit qui vient de son côté. Ce ruisseau d'eau vive qui jaillit, c'est-à-dire l'amour qu'il nous a montré, qu'il nous a donné, c'est comme s'il disait « accueillez-le ». L'Église est née ici et c'est le passage dans l'histoire du salut, du temps de Jésus, qui est le temps de la vie de Jésus sur terre, l'âge du Fils à l'âge de l'Esprit. Eh bien, l'Évangile dit « Et ils furent tous, tout à la joie ». La joie et la paix sont les signes de la présence de Dieu. La paix devient joie, une joie paisible, une paix joyeuse, comme si la paix descendait dans notre cœur et devenait joie. Toute notre humanité est ainsi touchée par cette rencontre. La joie et la paix sont les signes de la présence du ressuscité. Mais pas seulement cela, ils sont les signes que nous aussi, nous sommes ressuscités. C'est l'expérience qu'on voudrait faire ensemble pendant cette retraite. L'expérience de Jésus ressuscité qui se tient parmi nous pour prendre encore une fois conscience de qui je suis pour Dieu. Et qui est Dieu pour moi? Dieu est celui qui m'apporte ses mains clouées et son côté percé, et je suis l'objet de son amour infini dont la paix et la joie sont les signes qui viennent de la résurrection. On pourrait, pendant cette première méditation, demeurer un petit peu dans cette contemplation du Seigneur qui nous rejoint dans nos enfermements et il nous donne sa paix pour que faisions l'expérience de cette joie intime et profonde. D'une certaine manière, tout l'évangile de Jean a voulu nous amener à contempler celui que nous avons percé. Tout l'évangile est contemplation de ses mains et de ce côté. Et c'est de cette contemplation qui jaillit la joie. La joie ou la tristesse, ces deux émotions fondamentales, sont les principes, les sources de toutes nos actions. Quand nous sommes tristes, nous sommes enfermés. Nous ne faisons rien de bon. Soit nous faisons n'importe quoi, soit nous faisons du mal à nous-mêmes et aux autres. La joie est le principe de toute action positive. La joie du Seigneur est notre force. Ça signifie la résurrection du Seigneur est notre force. C'est la force d'une vie nouvelle et d'une vie ressuscitée qui vit en nous. C'est la force d'une vie dans l'amour. D'où vient cette paix et cette joie? Certainement pas de ma naïveté. Cela ne signifie pas que tout va bien. Elles viennent de la contemplation de ses mains et de son côté. De la quoi? C'est-à-dire qu'en contemplant son amour, je comprends qui est Dieu. Je le vois dans son signe particulier, la croix. Je comprends qu'il est, qui il est, et je comprends que qui je suis pour lui, et cela me donne paix et joie. C'est la résurrection que chacun de nous peut vivre grâce à la rencontre avec le Seigneur. C'est la vie de l'Esprit en nous qui commence et qui nous donne une nouvelle vie chaque jour. Les fruits de cette vie en nous sont ceux dont parle Paul dans la lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, liberté. Tout cela, Jésus nous l'avait donné déjà sur la croix. Maintenant, il nous dit encore, accueillez le don. Parfois, nous sommes encore enfermés dans nos peurs. Maintenant, il nous propose d'accepter le don. Si un don n'est pas accepté, il n'existe pas. Il tombe par terre. Il ne vit pas. Ainsi, toute la vie chrétienne n'est rien d'autre qu'accueillir, jour après jour, ce don, cette force divine qu'est l'Esprit Saint. Comme le dit tout de suite après Jean, recevait l'Esprit Saint, dans la même, il le dit deux fois. Et c'est le sens même du baptême. Il a dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, recevrez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Recevez autant que vous le pouvez, car le don est infini. Cela signifie, un jour, j'ai compris ça. Et le jour d'après, c'était davantage, et toujours plus, et toujours davantage. L'Esprit est infini et nous pouvons le accueillir à nouveau aujourd'hui d'une manière nouvelle. Chaque jour de plus en plus. C'est sa vie à moi, à nous, c'est la vie de l'Église. Et chacun de nous l'a dans sa poche, comme peut-être dans une cage. Eh bien, accepter le don signifie sortir de cette cage et recevoir l'Esprit et recevoir le don de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Chaque jour, et pendant cette retraite à nouveau, nous sommes de plus en plus immergés dans cet amour du Fils pour nous qui est le même de celui du Père. Comment se fait-il? En contemplant ses blessures, en contemplant son amour pour que chacun de nous puisse dire « Oui, j'accepte qu'il m'aime comme ça. Et chaque jour, de plus en plus, à mesure que nous le contemplons et comprenons de plus en plus son amour pour nous, plus nous le comprenons, plus nous voulons, nous en voulons. Plus nous le voulons, plus nous l'accueillons. Et donc, nous voilà ouverts à l'infini dans la vie de Dieu, en nous-mêmes et entre nous. Et nous le savons. Le savoir, c'est important. C'est précisément pour cela que les évangiles ont été écrits. Pour nous le raconter, pour que nous le sachions. Et puisque nous le savons, nous le désirons, parce que le désir est la forme fondamentale de l'amour. Alors, pendant cette retraite, il faudrait se poser de temps en temps cette question. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire? Quel est le désir le plus profond et fondamental de ma vie? Là, Dieu répond à ce désir en nous donnant l'Esprit Saint et la paix et la joie. Accueillir, c'est l'accomplissement de l'amour. Donc, là, c'est quelque chose d'énorme, non? En l'accueillant, Dieu peut nous donner quelque chose. Si je ne l'accueille pas, Dieu est comme... on lui empêche de faire un cadeau, un don. Vous voyez très bien que là, la religion chrétienne a quelque chose d'un peu bizarre. Ce Dieu qui est bloqué par notre enfermement. Non? Il vient et il nous dit, recevez l'Esprit Saint, la paix soit avec vous, accueillez-la, accueillez-le. Accueillir, c'est l'accomplissement de l'amour, parce qu'il répond au désir fondamental de l'homme d'aimer, parce qu'il est aimé en premier par Dieu qui lui a donné sa vie.
Merci, Don Luca. Merci, merci, merci. Il me semble que tu nous as montré le ressuscité et que tu nous as donné envie de nous laisser aimer. De cet amour infini de Dieu, tu nous as donné envie et de répondre, mais la réponse est évidente. Et j'avais envie de dire à un certain moment, tu es en train de nous immerger dans cet amour. Et alors, restons-y et avançons ensemble. Et il me semble que c'est beau que maintenant on continue par la messe, parce que c'est le moment justement où on peut vivre tout ça. Et quand je suis entrée dans la salle, je dois dire que j'ai ce temps de silence, cette demi-heure de silence, j'avais l'impression qu'entrait dans la salle Jésus, 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 Jésus. Parce que chacun avait vraiment cette présence en lui. Donc, tu penses que tu as mis du feu sur le feu. Voilà.
Non, seulement continuer la méditation dans les moments de silence, mais j'ai écrit ces deux, trois versets de Jean. Mais après ces versets, vous trouverez des références bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce qu'en fait, la Bible est intéressante, elle est vraiment un puits incroyable, sans fond. Donc, et c'est beau de revoir aussi que Ézéchiel, que Paul, aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, que les psaumes, le psaume qu'on a prié ensemble au début. En fait, c'est beau de voir que toute la Bible parle de ce moment où Jésus vient et il nous dit « La paix soit avec vous ». Et voilà, si cela peut aider. Je laisse là, mais on va le prendre quand le moment venu.
Je vais vous les distribuer, mais je vous dis aussi que pour la messe, il y aura des feuilles comme ça qu'on met dans le fond de l'église. Je ne sais pas si chacun les garde, il ne faut pas les oublier, ou si on les laisse dans l'église, ou si je les récupère à la fin des messes, parce que ça va servir pour toute la semaine. Donc je les mets dans le fond de l'église.
Merci. Pardon. Alors, ma mission, c'est de nous rappeler le programme chaque fois. Alors, maintenant, on y va, il y a un peu de repos, et on y va à la messe, oui, et on reste en silence, oui. Et après nous revenons, et pour le repas, à 12h45. Et le repas est en silence avec un fond musical. Et après le repas, c'est le temps libre et aussi le soir. Aujourd'hui, il n'y a pas aucun programme. Mais après le repas et après le dîner, on peut en profiter pour régler notre séjour. Ça va bien? Il n'y a aucun programme. Oui. Il n'y a aucun programme dans la soirée. Et aussi, après le repas, on peut reposer, mais on peut profiter aussi pour régler notre séjour. Oui. Aussi, après le dîner. Oui. Et alors, on revient ici, on commence à 4h. Le programme, on commence ici, dans la salle, à 4h.